Nous accueillons aujourd'hui Blandine, référente jeu de hasard et d'argent à Alia, l'association ligérienne d'addictologie. À Alia, vous recevez des personnes en difficulté avec des consommations de produits, mais on parle aussi d'addictions comportementales. Qu'est-ce que c'est, Blandine ?
Alors bonjour à tous. En fait, les addictions comportementales, ou ce qu'on appelle aussi les addictions sans substance, en fait, elles répondent à la même définition que les autres addictions. C'est-à-dire être dans l'incapacité à arrêter un comportement, et ce, malgré ses conséquences négatives. Aujourd'hui, on repère différentes addictions comportementales, le jeu pathologique, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est cyberdépendance, les addictions au travail, addictions sexuelles, les achats compulsifs et même parfois les activités sportives.
Et le jeu pathologique, qu'est-ce que c'est ?
Alors, seul le jeu de hasard et d'argent, ce qu'on appelle les JHA, peuvent devenir des jeux pathologiques. C'est-à-dire avoir des conséquences négatives et parfois amener à la dépendance. Les conséquences négatives, elles sont souvent, dans un premier temps, financières. La personne perd de l'argent, parfois beaucoup d'argent, elle peut emprunter, faire des crédits, voler parfois. Mais nous rencontrons aussi beaucoup de personnes qui s'isolent dans le jeu, car elles ont perdu le contrôle. Elles perdent confiance en elles et s'enferment dans la honte et la culpabilité. Le JHA, lui, il répond à une définition bien précise. Il faut avoir systématiquement une mise de valeur. Et cette mise, elle est définitive, c'est-à-dire on ne peut pas la récupérer. On perd ou on gagne, et l'issue en dépend en totalité ou en partie du hasard.
Et du coup, en quoi jouer serait dangereux ?
Un joueur, il joue avant tout pour gagner, et gagner quoi ? De l'argent.
La roue tourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe, 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 le million !
Eh bien, c'est 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid.
C'est nul, attends, je peux recommencer.
Non, ça n'est pas du tout la règle. Mais...
c'est une seule fois 100 000 francs, c'est une très très belle somme, vous allez en faire quoi ?
Non, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je prenne 10 fois pour avoir un million, c'est ça ? Non, mais qu'est-ce qu'on comment on fait ? Avec les notaires et les...
Rachid est très très heureux, il vient de gagner 100 000 francs.
Or, derrière l'organisation des jeux de hasard et d'argent, il y a toujours un opérateur. Cet opérateur, en fait, c'est une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent et qui, elle, ne peut pas se permettre d'être dépendante totalement du hasard. Cette entreprise a donc organisé son fonctionnement pour récupérer de manière systématique un pourcentage des mises. Il faut donc toujours avoir en tête que les jeux de hasard et d'argent sont conçus de sorte que statistiquement et sur le long terme, les pertes, elles sont toujours supérieures aux gains. Il faut également savoir que certains types de jeux sont plus addictifs que d'autres, comme par exemple les paris sportifs, le poker ou les machines à sous. Le fait de jouer rapidement, souvent et avec un résultat immédiat, renforce le potentiel addictogène de certains jeux. Cela augmente la décharge d'adrénaline associée au fait de miser, de défier le hasard et de prendre un risque. Et c'est bien souvent cette recherche de sensations que l'on retrouve dans la conduite du jeu pathologique et sa répétition, elle peut mener à de l'addiction. Les JHA aujourd'hui, ils sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via des plateformes en ligne. Cette accessibilité continue, elle peut également pousser à jouer au-delà de ses propres limites. En plus de ça, la dématérialisation de l'argent contribue à déconnecter le joueur de l'argent qu'il dépense réellement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin d'un match de foot pour parier que votre joueur favori mettra un but à la 17e minute. Vous pouvez faire ce pari en 2 secondes sur votre smartphone en plein milieu d'un cours d'histoire ou de philosophie. Et vous aurez la réponse de vos gains dès la 18e minute.
Mais alors, pourquoi les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans.
L'adolescence est une période où l'autonomie affective et financière, elle a toute sa place, et où il est parfois difficile de demander de l'aide aux adultes. On sait aussi que le cerveau d'une personne de moins de 25 ans est toujours en construction. Les zones de capacité de discernement et de prise de décision du cerveau, elles sont en pleine mutation, elles ne sont pas encore matures. Voilà, c'est ce qui explique que les adolescents ne disposent pas des mêmes capacités que les adultes à se contrôler, à respecter les limites. Ils sont globalement plus impulsifs. Et c'est ce qui rend plus vulnérables vis-à-vis des JHA et des addictions en général.
Tout à l'heure, Blandine, tu parlais des opérateurs de jeux. Mais qui sont-ils ?
Alors en France, l'autorité nationale des jeux, ce qu'on appelle l'ANJ, elle donne l'autorisation d'exercer à 4 types d'opérateurs. Les premiers et souvent les plus connus, ce sont les casinos physiques. Il y en a environ 200 en France. Ceux en ligne sont aujourd'hui interdits. Le PMU, Paris Mutuel Urbain, qui organise les courses hippiques, est le deuxième opérateur. Le troisième, c'est la Française des Jeux, ce qu'on appelle la FDJ. Elle détient les lotos, des sites de paris sportifs et des jeux de grattage. Et les derniers opérateurs, sont tous les autres sites de paris sportifs. Il y en a 14 actuellement qui sont agréés par l'ANJ.
Alors comment est-ce qu'on peut faire pour repérer les sites légaux des sites illégaux de jeux ?
Alors oui, c'est pas toujours très facile. En fait, un site internet de jeu légal est forcément avec un .fr. Si c'est un autre .org ou autre, ça veut dire que vous pouvez déjà vous poser des questions. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'ANJ qui dresse la liste des opérateurs agréés. Un site légal doit protéger les consommateurs les plus vulnérables. Donc il doit avoir de la publicité de prévention contre les addictions. Il doit permettre aux joueurs de se désinscrire facilement et surtout d'être interdit aux mineurs.
Et pourtant, on observe dans les publicités actuelles l'utilisation des codes sociaux propres aux adolescents et aux jeunes adultes.
Et ouais, en effet, sans donner de nom d'opérateur pour ne pas faire de publicité, vous pouvez régulièrement entendre ou lire dans les médias.
Oui, grosse cote, gros gain, gros respect, le pari est plus fort quand on le vit ensemble, ou encore nous sommes les parieurs et ce qu'on aime, c'est gagner cash, ou bien avec de meilleures cotes, les émotions sont plus fortes.
Voilà, et bien la publicité, elle survalorise les gagnants, et d'ailleurs elle ne parle que des gagnants. Elle renforce chez le joueur sa conviction qu'il peut gagner ou se refaire, alors qu'il sait que sur le long terme, ce sont toujours les opérateurs qui gagnent. La publicité montre une image héroïque du joueur. Il est respecté, adulé comme un dieu. Son gain valide la croyance en ses compétences. La dimension du hasard est quelque part presque effacée.
Est-ce que là, on peut faire un parallèle avec les jeux vidéo, qui du coup ne rapportent pas forcément d'argent, mais qui ont un petit peu les mêmes attributs addictologiques ?
Alors oui, on peut faire le parallèle. D'ailleurs, c'est la cyberdépendance et fait partie des addictions comportementales. Et il faut aussi avoir en tête que de plus en plus de jeux vidéo proposent ce qu'on appelle des loot box, où du coup, on va acheter une boîte dans laquelle on ne sait pas quel type de joueur, de foot par exemple, on va pouvoir gagner ou quel type d'arme on aura. Et pour ça, il faut mettre de l'argent et parfois beaucoup d'argent.
D'accord, mais il y a quand même une certaine forme de plaisir puisque ces jeux font appel à ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien. Je ne suis pas biologiste, mais je crois que c'est ça. Quelle est la frontière entre plaisir et comportement à risque addictif ?
Alors, quelle que soit la consommation de produits ou ce qu'on appelle avant tout les comportements addictifs, il y a toujours du plaisir à la découverte et puis après à s'inscrire un peu dans cette répétition autour de la consommation ou du comportement. Là où il commence à y avoir du déplaisir, c'est à partir du moment où les conséquences négatives sont bien présentes. Encore une fois, il peut y avoir des pertes d'argent, des insomnies, de perte de l'appétit, des décalages, une démotivation à aller au travail ou en cours. Et c'est à ce moment-là, du coup, on va pouvoir parler, nous, de dépendance.
Tout à l'heure, on disait que les jeunes étaient plus réceptifs à aller compulsifs par rapport à ces jeux d'argent, en tout cas, même aux jeux vidéo. Est-ce que dans les profils de personnes qui sont dans des comportements addictifs, c'est vraiment eux aussi qui sont souvent dans des comportements néfastes ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que chez les publics jeunes, on est moins sous des formes de dépendance, on va être beaucoup plus dans l'expérimentation et la prise de risque. Donc les comportements néfastes, ils peuvent être liés à de la prise de risque, mais aussi à de la dépendance avec des publics un peu plus âgés.
D'accord, s'il n'y a pas un âge de prédilection pour tomber dans l'addiction en fait.
Non, d'accord. Il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte qui sont de la personnalité de la personne et également de l'environnement dans lequel elle vit.
Socialement, par rapport au PMU, par exemple, au casino, on a un peu des images stéréotypées de joueurs. Ça se confirme ou pas ?
Alors, on ne rentre pas au PMU souvent sans y avoir été un peu accompagné. Souvent, il y a quelque chose de transgénérationnel ou de familial autour du PMU. Le casino, c'est encore un peu différent. Il y a quelque chose qui touche aussi à la géographie du lieu. Et souvent, ce sont les personnes qui habitent ou qui ont des maisons secondaires près des casinos qui vont avoir tendance à y aller un peu plus. Aujourd'hui, on sait que les publics jeunes vont être, eux, attirés principalement par les paris sportifs.
D'accord. Bon, je raconte un petit peu ma vie, mais j'ai un ami qui se met un challenge en ce moment. Il achète pour tant d'argent par mois des jeux à gratter. pour voir s'il va toujours gagner ou pas par rapport à l'argent investi. Donc, a priori, les statistiques annoncées tout à l'heure se confirment. Est-ce qu'il y a un risque pour lui qu'il devienne addict ?
Alors oui, il y a toujours un risque à partir du moment où, si à un moment dans sa vie, il y a une fragilité liée à un événement de vie qui fait qu'il a repéré que le fait d'acheter des jeux de grattage pouvait le soulager ou lui faire plaisir dans quelque chose, oui, il y a un risque à ce moment-là de basculer. Après, le premier risque, c'est avant tout de perdre beaucoup d'argent. J'ai une personne que j'accompagne qui avait une fois acheté tout un rouleau entier de jeux de grattage chez son buraliste, donc qui avait mis plusieurs centaines d'argent, centaines d'euros dans ce rouleau entier. Et au final, elle a gagné 15 euros sur l'ensemble du rouleau. Donc il faut savoir que, voilà, il y a statistiquement, on le disait tout à l'heure, c'est toujours l'opérateur qui, lui, récupère l'argent.
Voilà, c'est une logique commerciale et il n'y a pas de hasard à ce niveau-là pour ceux qui vendent des tickets à gratter, donc attention. Hein. Si jamais on se sent en difficulté, Blandine, ou qu'on a besoin de faire le point un petit peu sur notre situation, qu'on a des doutes, des questions, où est-ce qu'on peut retrouver Alia ?
Alors, vous pouvez nous retrouver tout l'ensemble de nos coordonnées de l'association sur alia49.fr ou sur la page Facebook de la consultation Jeunes Consommateurs.
Merci beaucoup.
Merci à vous.